Frères et sœurs, lisons ensemble dans le livre des Nombres et regardons la leçon éternelle que Dieu a donnée à son Église depuis toujours. Livre des Nombres, chapitre 21, nous avons des choses à apprendre. L'histoire du désert, c'est l'histoire de votre vie et de la mienne. Leurs erreurs, leurs fautes, on les reproduit, souvent. Elles sont écrites pour nous dire, ne faites pas ça. Nous servir d'exemple. Nombre, chapitre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ?» Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. » Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, de cuivre, de bronze, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et je vais aller au verset 16. De là, ils allèrent à Ber. C'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puits, chantez en son honneur, puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton. Amen. » Ils sont aux portes de la terre promise, ils la voient de loin, soit quelques minutes de marche. Ils sont à Kadesh. Ils étaient déjà venus à Kadesh il y a 38 ans. Ils avaient fait le voyage en à peine 2 ans. Et en arrivant à Kadesh, Dieu leur dit, c'est à vous. Et ils ont dit, on va envoyer des explorateurs pour voir si ce pays est beau comme tu le dis. Et quand les explorateurs sont revenus, ils ont dénigré le pays, ils ont fait peur aux enfants d'Israël, ils ont dit on n'y arrivera pas, il y a des géants, il y a des peuples qui sont méchants et tout le monde a pleuré, toute la nuit ils ont pleuré. Ils sont repartis dans le désert, par leur faute, on peut perdre sur la terre 38 ans de vie chrétienne. Et puis ils reviennent 38 ans après, ça fait 40 ans en tout. 38 et 2, ça fait 40. 40 ans après, ils reviennent. Et là, ils sont dans le même lieu, à Kadesh. Mais là, il va se passer deux choses importantes. Myriam, la sœur de Moïse, elle va mourir. Et ça, c'est une femme qui tient le peuple d'Israël, qui a sauvé Moïse. c'est une femme exemplaire, c'est une femme, une colonne, une mère en Israël. Elle va mourir. Et quelques jours après, Aaron va mourir. Dieu va le reprendre. Aaron, c'est le défenseur d'Israël, c'est le bouclier d'Israël, c'est le grand prêtre, l'intercesseur, le sacrificateur. Puis quand ils sont à Kadesh, ils entendent une nouvelle du pays d'Édom qu'ils doivent traverser. Le roi d'Édom leur dit « Vous ne passerez pas !»« S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut passer par votre territoire ?» On ne prendra pas de votre eau, et si on en prend, on vous la paye. Vous ne passerez pas. Ils ont recommencé. Vous ne passerez pas. Alors ils ont fait un détour parce qu'ils veulent la paix. Ils vont passer, ils vont faire 200 km de plus avec 2 millions de personnes et des brebis et des enfants et des malades. 2 millions de personnes. Il faut parfois faire des détours pour éviter la guerre. Il faut parfois perdre du temps pour garder la paix. Il faut parfois savoir perdre pour gagner. Ils vont faire un détour. Mais là, ils vont revenir un peu vers la mer Rouge. Et la mer Rouge, pour eux, ça va leur rappeler des mauvais souvenirs. Ça va leur rappeler l'Égypte. Et puis ils sont fatigués. On n'y arrivera jamais. Ils perdent patience. Ils ont l'impression de revenir à zéro alors qu'ils sont tout proches. Parfois, il semble que notre vie piétine alors qu'on est tout proche. Parfois, on se dit on n'y arrivera pas alors que Jésus nous tend les mains et on ne le voit pas. Une terre qui leur paraît inaccessible. Il y a parfois dans nos vies des bénédictions qui nous semblent inaccessibles parce que nous manquons de patience. La Bible dit... Il s'impatienta, littéralement, en hébreu, son cœur est devenu étroit. Il ne voit plus, il ne ressent plus, ils sont devenus indifférents. On peut perdre notre sensibilité de la présence de Dieu. On peut perdre et ne plus voir, ne plus comprendre, ne plus réaliser. Et on perd du temps. Mes amis, on a perdu du temps, c'est sûr. On a dû perdre des années, on a dû perdre en force, en joie, en dynamisme, parce qu'on s'est impatienté. Et puis là, oh, cette parole, je l'ai entendue tellement de fois, le peuple va parler contre Moïse et contre Dieu. Et ils vont dire à Moïse et à Dieu, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous avoir fait venir jusqu'ici pour nous voir mourir? Ce qui veut dire que malgré 40 années avec Dieu, ils n'ont pas compris le sens du désert. Comprenons-nous le sens de nos épreuves, le sens du temps de la vie? Pourquoi nous sommes sur terre? Pourquoi nous traversons pendant des années des épreuves, des maladies, des tourments? Donc, quel est le sens de tout? Ils vont perdre le sens. Le désert, c'est pour les préparer à être les rois de la terre promise et ils ne le savent pas. Et puis, ils vont perdre la réalité qui est devant eux. Il n'y a pas d'eau, s'il y a de l'eau. Il n'y a pas de pain, s'il y a le pain, il y a la manne. Il n'y a pas l'esprit, s'il y a l'esprit. Il n'y a pas la joie, s'il y a la joie. Et notre âme est dégoûtée, disent-ils, de cette misérable nourriture, littéralement, cette nourriture avariée. On a l'impression qu'ils dénigrent, ils calomnient le cadeau de Dieu, qui est une petite merveille qu'on n'a jamais su reproduire, la manne. Que va faire le Seigneur ? Avec nous, avec eux, la Bible dit, le Seigneur laissa aller, littéralement c'est ça, c'est pas il envoya, il laissa aller les serpents. On a l'impression qu'il les avait retenus pendant 40 ans, parce que je lis cette histoire depuis déjà des mois et des années, et je n'ai jamais vu de problème avec les serpents. Et puis là, le Seigneur laisse aller les serpents. Il ne les retient plus. Ce qui veut dire que pendant 40 ans, il les a retenus, ces serpents. Pas un enfant a été mordu, pas un homme a été mordu. Il les a retenus, il les a défendus du serpent de la Genèse, le tentateur, serpent ancien. Mais là, il lâche les serpents. Allez, mes amis, allez-y. Ces petits serpents jaunes avec des points rouges, c'est beau, mesdames, une belle couleur. Ces petits serpents jaunes avec des points rouges, on les appelle des cérastes, c'est-à-dire des brûlants, parce que quand ils vous mordent, ça provoque une fièvre épouvantable et une grande soif, une grande brûlure. Ces petits serpents monstrueux qui sont venimeux et mortels. Et beaucoup meurent. Écoutez bien, à quelques heures, quelques minutes de la terre promise, des gens meurent, des enfants meurent, des vieillards meurent. Ils voient pour la première fois la conséquence tragique de leur murmure. On dit parfois, j'ai dit ça, mais enfin, j'ai dit ça comme ça. Oui, j'ai dit ça comme ça. Regardez, ils ont dit ça comme ça. On en a assez de toi, Moïse. On en a assez de toi, Seigneur. Les serpents les mordent et les font mourir. Les serpents grouillent de partout. Ils rentrent sous les tentes, ils rentrent sous les toiles, ils sont sous leurs pieds, ils mordent les enfants. On a l'impression qu'Israël est sans défense devant la mort qui rentre dans le camp. Mais là, pour la première fois, ils prennent conscience qu'ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Ils reconnaissent la responsabilité. C'est très dur de reconnaître qu'on est responsable. C'est très difficile. Il a fallu vraiment qu'ils voient des gens mourir pour réaliser. Mais ils vont demander à Moïse de prier. Ils ne prient pas eux-mêmes. « Seigneur, pardonne-nous ». Ils demandent à Moïse de prier. Moïse qu'ils ont critiqué. Moïse qu'ils ont failli faire mourir beaucoup de fois. Moïse qu'ils ont haï. Moïse qu'ils ont rejeté. Et Moïse est toujours là. Et puis ce Moïse qui a près de 120 ans, il va prier le Seigneur afin qu'il éloigne les serpents. Mais ils ont bien dit, prie afin que Dieu éloigne le serpent. Le serpent. C'est-à-dire pas seulement ces petites bestioles épouvantables qui nous mordent, mais ce serpent qui est le prince de la mort, le père du mensonge, ce serpent qui est le séducteur, le malin et qui dort au fond de nos âmes, ce serpent qui s'appelle le malin, le diable, éloigne-le, dis à Dieu qu'il l'éloigne. Et Moïse a prié. Vous savez, Moïse, il a une qualité qui est nécessaire quand on est un homme de Dieu et un homme de prière, c'est la patience. Pour intercéder, il faut être patient avec le peuple. Le secret de la prière, c'est la patience. Quand sa sœur s'est révoltée contre lui, sa sœur Myriam, qui est morte maintenant, hein, quand elle s'est révoltée contre lui, eh bien, il ne l'a pas punie, il ne l'a pas maltraitée. Il a simplement dit, ô Dieu, prière que j'ai comptée, elle fait 2 secondes. Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Elle a été guérie de sa lèpre parce que Dieu l'avait frappée, parce qu'elle avait murmuré contre Moïse. Seigneur, éloigne ces serpents. Et Dieu ne les éloigne pas, les serpents. Parce que Dieu, il a une autre méthode. Il va enlever le venin qui est au fond des cœurs. Parce que quand on a été mordu, même si le serpent s'en va, on est mordu. Le venin, il est dans notre cœur, dans notre sang. Et que vous allez, qu'allez-vous faire, même si le serpent s'en va, même si vous le tuez, le serpent, le venin est en vous. Dans quelques minutes, vous allez mourir. Et Dieu, il va aller guérir le cœur jusqu'au fond, il va aller guérir son peuple au fond de son cœur, jusque dans son sang. Alors il ne va pas éloigner les serpents, mais il va guérir ses enfants en disant, tu vas faire un serpent et tu vas l'élever très haut pour qu'il puisse voir le responsable de la crise, le responsable des défaites d'Israël, un serpent en métal qui représente le séraste, le serpent brûlant qui est au fond de leur cœur. Et tu vas l'élever sur une perche, c'est-à-dire très haut. Il faut qu'on le voie de partout. Il faut que la Bible, on la voie de partout. Il faut qu'elle soit dans toute la ville de Rennes, aux Jeux Olympiques. Il faut qu'elle soit dans nos cités, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos maisons. Il faut que cette perche montre le serpent en métal qui est comme mort finalement. Et ce serpent, il montre le triomphe de Dieu. Ce serpent, c'est un serpent mort, comme si Dieu a dit, je l'ai vaincu. Et vous aurez à le regarder. Le Seigneur ne sauve pas les enfants d'Israël qui pleurent, qui sont dans la détresse parce qu'ils voient leur fils qui va mourir, leur fille qui va mal. Le Seigneur ne les sauve pas sans eux. Il faut qu'ils prennent conscience que leurs murmures ont bousculé tout le peuple. Ça a retardé tout le peuple. Leurs murmures ont détruit une partie du peuple. Leurs murmures ont attristé le Saint-Esprit. Leurs murmures ont retardé le projet de Dieu. Leurs murmures ont détruit Moïse, parce que Moïse ne rentrera pas en terre promise. Leurs murmures, c'est le poison du diable. Il faut qu'ils en prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience que leur péché contre Moïse et contre Dieu a troublé toute l'assemblée du désert. Et Dieu leur demande deux participations. D'abord prendre conscience et puis ensuite regarder le serpent en métal. Le regarder. Il faut de la confiance pour regarder quand on est malade un bout de métal. Il faut de la confiance en Dieu. Quand Dieu nous dit regarde-le et celui qui le regarde conservera la vie. Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est de la folie. Ça ne tient pas la route. C'est pas possible. Il faut de la confiance en regardant ce bout de métal tordu, ce signe du pardon, ce signe de l'amour de Dieu. Il faut de la confiance pour croire que, en regardant seulement, eh bien, on est guéri. Mais aussi, il y a une troisième participation. Dieu dit, on va mettre un serpent et vous le regarderez. Prenez conscience que vous avez retardé le peuple, vous avez détruit le peuple, vous avez détruit le projet en partie, vous avez fait du mal à Moïse. Mais aussi, maintenant, il faut participer. Il faut que tout le monde voie le serpent d'airain. Il faut que vous preniez les enfants qui sont dans les tentes et qui sont en train de souffrir, qui vont mourir. Sortez-les des tentes et montrez-leur le serpent. Et puis la petite grand-mère qui a du mal à marcher, qui est toute courbée, portez-la, mais qu'elle regarde le serpent. Puis vous allez sortir chercher tous les incrédules qui disent « c'est pas possible, mais c'est de la bêtise, on ne sera pas guéri en regardant le serpent d'airain ». Vous allez aller convaincre les gens, vous allez porter la parole de Dieu, parce que c'est une parole de Dieu. Quiconque croit en lui, non, quiconque regarde le serpent et qui aura été mordu conservera la vie. Cette parole, vous allez la porter dans toutes les tentes, vous allez la porter jusqu'au bout du camp, vous allez la distribuer, vous allez l'imprimer, vous allez la passer sur les radios locales, vous allez aller partout dire, quiconque regardera le serpent conservera la vie. Remue-ménage. Et chacun est confronté avec ce serpent qu'il regarde et qui est une image de sa vie. faut pas dire c'est pas possible, j'ai pas fait du mal. C'est la réalité. Chacun est face à sa réalité. J'ai écouté la voix du diable. Je me suis laissé entraîner, je me suis laissé séduire, j'ai parlé contre Moïse, j'ai parlé contre Dieu. Le Seigneur dit, regardez la réalité. C'est pas fini, mais ça nous parle à nous. Il fallait regarder le serpent personnellement. Il ne s'agit pas de dire, mon fils, va le regarder pour moi, personnellement. Individuellement, pas par procuration. Il fallait que chacun regarde le serpent sur la perche. Il ne fallait pas regarder le mal lui-même. Il ne fallait pas regarder simplement les autres. Il fallait regarder une image du mal, une image du diable qui nous a vaincus un temps. Il fallait regarder comme nous on regarde Jésus qui a été fait péché et qui a été sur la croix. Et il fallait croire, je termine là, il fallait croire dans cette folie de Dieu. Il fallait croire que Dieu tient parole coûte que coûte. Il fallait croire qu'un seul regard qu'il fallait intérioriser, il ne s'agit pas d'un petit regard comme ça d'un coup, il ne s'agit pas d'un petit clin d'œil, il fallait regarder et regarder et regarder et encore, et pendant ce temps, le sang se purifiait, le cœur se purifiait et la maladie était chassée et la santé revenait. Il fallait regarder comme je regarde à Jésus jour et nuit. Amen. Christ a été fait péché pour nous, afin qu'en regardant à lui, avec une foi persévérante, il n'y a pas de foi sans persévérance. Tous ceux qui abandonnent en route n'ont pas la foi de la persévérance. C'est la persévérance qui permet à la foi d'être sauvée. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, on a lu tout à l'heure, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu a tant aimé le monde. La foi, c'est croire dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas croire dans ce que je ressens. C'est croire dans l'amour de Dieu. Il faut regarder au Seigneur, mes amis, aujourd'hui. Peut-être que parmi nous, certains ont été mordus par le serpent. Et ils ont des pensées et des gestes impurs. Et ils ont des convoitises, et ils ont trompé, ils ont mal agi, ils n'ont pas fait pratiquer la voie chrétienne. Il faut regarder à Jésus ce matin. Il ne faut pas regarder à ceux qui nous entourent, non pas regarder à Moïse, à Josué. Ils ont regardé au remède de Dieu, le serpent sur la croix. Pour nous, c'est Jésus. Mais ce n'est pas seulement le regard qui sauvait. Le regard, ce n'est pas grand-chose. C'est la parole de Dieu qui agissait pendant qu'il regardait. Et si vous venez au culte avec un cœur bien disposé, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'apôtre Paul le dit, le certifie, la parole de Dieu agit en vous. Qui croyez, elle exauce vos prières, elle exauce vos besoins, elle répond si vous êtes sensible, attentif, la parole, elle agit. Le regard, permettez à la parole d'agir. Et la parole, elle agit parce que le Saint-Esprit était dans les veines des enfants d'Israël pour enlever le poison, était dans la tête des enfants d'Israël. Le Saint-Esprit agissait en eux. Amen. Et pendant qu'on regarde à Jésus, on court vers lui, les regards sur lui. Le Saint-Esprit agit en nous. Le Saint-Esprit accomplit la promesse. Quiconque, c'est beau. L'enfant faisait l'expérience de Dieu dans le désert. Il disait, « Papa, j'étais guéri !» Le vieillard qui était rassasié de jour disait, « Mes enfants, j'ai été guéri !» Chacun faisait la pratique de la parole de Dieu, l'expérience d'une parole, d'une promesse. Dieu ne veut pas le découragement dans son Église. Dieu ne veut pas la mort dans nos pensées. Dieu ne veut pas qu'on partage avec le mal. Dieu ne veut pas l'échec de son peuple. Dieu ne veut pas que l'on s'arrête pendant 38 ans, parce que ça peut durer 38 ans. Ça a duré pour eux, ça peut durer pour moi. Mais dans 38 ans, je serai certainement auprès du Seigneur. Frères et sœurs, nous devrions ce matin nous mettre tous devant Dieu et regretter nos murmures qui ont cassé les roues de l'armée d'Israël, les murmures qui ont faussé la marche d'Israël. Seigneur, pardonne-nous le mal que nous avons commis. Ce qui est beau dans ce texte aussi, on a lu juste à la fin, quelques jours après, ils sont arrivés dans un lieu qui s'appelait Ber. Terre promise, elle est là, elle est à portée de main. Puis là, il n'y a plus de murmure. Ouf ! Ça a duré 40 ans. On les connaît par cœur, les murmures. Et là, il n'y a plus de murmure. La terre promise, ils la voient. Les enfants sur les épaules des papas, ils disent « Papa, allez là-bas, je vois bien. » Il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a des champs, il y a des ruisseaux. Puis là, le Seigneur fait quelque chose d'étonnant. C'est dommage que ça se passe maintenant, hein. Parfois, je me dis, on a sûrement raté des choses dans notre vie d'église à Rennes. Et ben, on va vivre des choses qu'on aurait dû les vivre depuis 50 ans. Là, à Ber, il y a des hommes qui vont mettre leur sceptre, leur épée, je ne sais pas, leur bâton sur la terre. Et voilà que l'eau a jailli. Oh. Des gens comme vous et moi, hein, des gens tout simples, des gens qui n'ont pas de prétention. Moi, je suis rien, je suis qu'un chrétien. Je suis un chrétien, j'aime lire, j'aime entendre et j'aime croire. Eh bien, ces hommes-là, tout simples, ils ont mis le bâton sur la terre, pouf, l'eau a jailli. Comme quoi, le Seigneur était prêt à leur donner de l'eau pendant 40 ans, plus facilement qu'ils le pensent. L'eau a jailli. Puis il y a autre chose qui a jailli, que je n'avais pas écouté depuis 40 ans. Ils ont commencé à chanter des cantiques à l'Éternel. Monte puis, on l'a lu ensemble, monte puis, montez les eaux. Ils ont chanté, ils n'avaient pas chanté depuis la traversée de la mer Rouge. Et là, ils commencent à chanter à l'entrée de la terre promise. Frères et sœurs, je souhaite que des sources jaillissent au milieu de nous. Je souhaite que des guérisons soient données dans l'Assemblée. Je souhaite qu'on soit une Église accueillante, ouverte, intelligente, qui comprend, qui est là, qui est fidèle, qui ne bouge pas, sur laquelle Dieu peut s'appuyer sans se piquer la main, sur laquelle on peut faire confiance à 100% parce que les gens, quand ils disent oui, c'est oui. On a besoin pour que les sources jaillissent, pour que les champs jaillissent, pour que la gloire de Dieu jaillisse au milieu de nous. Amen. Nous prions le Seigneur. Et merci pour les serpents qui sont partis. Amen. Et merci pour les guérisons d'Israël. Seigneur, nous voici devant toi comme Israël. Les temps n'ont pas changé, les cœurs n'ont pas changé, et tu n'as pas changé. Seigneur, guéris-nous de la morsure du serpent. Guéris-nous du poison du serpent qui est parfois dans nos bouches, sur nos langues, et qui sème la destruction et le malheur. Guéris-nous, Seigneur, afin que nous fassions une assemblée fraternelle, une assemblée confiante qui fera jaillir des sources dans le désert. Ce n'est pas seulement Moïse et son bâton, c'est chacun de nous, Seigneur, dans notre maison. Nous voulons faire jaillir le pardon de Dieu. Nous voulons faire jaillir un renouveau de vie sainte. Nous en avons assez d'avoir perdu du temps. Seigneur, redonne-nous le désir de la consécration, du service, d'un esprit bien disposé. Donne-nous des oreilles qui entendent, donne-nous des yeux qui voient et permet que nous courions avec persévérance les regards tournés, non pas sur un morceau de métal, les regards tournés sur Jésus, et que nous croyons que quiconque regarde à Jésus est guéri, pardonné, transformé. Seigneur, nous voulons faire sortir nos femmes de leur tente, faire sortir nos enfants et nos maris, faire sortir nos parents, faire sortir nos petits-enfants. Nous voulons faire sortir la famille pour qu'elle regarde à Jésus qui guérit quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Réfléchissons, frères et sœurs. Avez-vous encore des années à perdre, des enfants à perdre, un mari ou une femme ou des parents à perdre? Nous tenons le sceptre du Seigneur. Nous allons avancer ou nous allons faire du surplace. Mais ce matin, au nom du Seigneur, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et avançons. Les temps sont décisifs partout. On prépare la guerre partout. On vit un temps qu'on n'a jamais vécu de notre vivant. Partout, l'Église prend conscience que les temps sont arrivés et qu'il faut faire des choix. Il faut se réveiller. Se réveiller, ça ne veut pas dire crier, ça veut dire vivre pour Dieu dans les petits détails de la vie. Amen.